mon lieutenant. Alors, à l'attaque.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce mois-ci, dans La Tactique, on continue les luttes locales. Et donc, avec Cécile, Sylviane, Jean-Marie, on reçoit Benoît aujourd'hui pour évoquer la centrale d'enrobée à chaud qui est en prévision à Reims. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Est-ce que, pour commencer, tu peux déjà expliquer le projet et en quoi il va nous impacter et pourquoi on en parle aujourd'hui?
Alors, le projet, c'est un projet de construction d'une centrale à enrober, donc une centrale qui pour créer le bitume qui va servir à construire les routes. Et aujourd'hui, on en parle puisque c'est une création nouvelle qui va se faire à proximité des quartiers de la Neuvillette. Très exactement, on est derrière le Leclerc-Saint-Brice. Et pourquoi il impacte autant? C'est parce que ce projet, il est situé à proximité quand même très proche des quartiers de la Neuvillette, Orgeval, Bétheny, et que notamment les vents dominants risquent d'amener les pollutions créées par cette centrale sur les zones habitées de ces quartiers-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une centrale enrobée, donc parmi les nuisances possibles, on retrouve toutes les produits chimiques qui sont utilisés à l'intérieur de la centrale enrobée, qui vont être portés à une certaine température, donc qui vont s'évaporer dans l'atmosphère, être portés par les vents dominants vers les zones habitées. Donc on retrouve parmi ces composés du benzène, les composés organiques volatiles, enfin tout un tas de composés aujourd'hui connus pour leur nocivité, puisqu'en fait c'est des produits très nocifs vis-à-vis de l'ADN, donc tout être vivant va être impacté par ces produits nocifs. Et aujourd'hui, tel que le projet est porté par l'entreprise qui souhaite s'installer, aucune mesure constructive préventive n'est prévue pour contenir ces polluants sur le site. Aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle un encapotage, c'est-à-dire un recouvrement prévu de la centrale à enrober, c'est-à-dire que la centrale à enrober, elle est en plein air, et ce qu'on craint vraiment, c'est que l'évaporation de l'ensemble de ces produits puisse se répandre sur l'ensemble de la ville de Reims et notamment sur les quartiers les plus impactés, et puis donc créer des problèmes de santé pour les différents habitants et notamment les publics les plus sensibles, puisqu'on retrouve quand même à 900 mètres à vol d'oiseau de la centrale, sous le vent dominant, une école maternelle, une école primaire, et dans un tout petit peu plus loin, un collège et une autre école maternelle et primaire.
D'accord, mais quand tu parles de ça, c'est pas des études d'impact qui ont été faites en amont?
Alors le sujet, c'est que ce type de projet est soumis à une autorisation préfectorale. Cette autorisation préfectorale, au moment où on se parle, elle n'est toujours pas obtenue. Pour autant, on est parti sur une procédure simplifiée. Ça, c'est une décision de la préfecture qui a considéré que le projet ne nécessitait pas une procédure très poussée. D'ailleurs, il n'y a eu qu'une consultation publique. On n'est pas rentré dans une enquête publique. Donc là, on est dans le cadre d'une consultation publique qui a eu lieu au mois de juillet 2023. Il faut savoir que sur cette consultation publique, il y a 60 personnes, des publics rémois, donc 60 personnes rémoises qui sont soit allées sur le site de la préfecture, soit sont allées en mairie pour exprimer leur désaccord vis-à-vis du projet par rapport à toutes les craintes qu'ils pouvaient avoir sur la santé des populations. Pour autant, il n'y a pas d'enquête publique et par contre, effectivement, il y a quelques études réalisées, notamment par la DREAL. Tout un tas d'études sont réalisées en fonction du projet porté par le pétitionnaire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, parce qu'on a rencontré le préfet, le sous-préfet, pour être exact, le sous-préfet de Reims, on l'a rencontré le 18 janvier de cette année. Et ce qu'il nous a bien expliqué, c'est que lui ne peut pas s'opposer à la construction d'un tel projet tant que celui-ci respecte la loi. Aujourd'hui, ce qui inquiète notre association, c'est de se dire que la loi, elle est beaucoup trop laxiste par rapport aux pollutions, dans la mesure où ce type de projet, aujourd'hui, on le sait par les études scientifiques qui ont pu être réalisées, ce que la loi impose n'empêche pas les évaporations des produits dangereux, dont les composés organiques volatiles.
Et on sait, il y a déjà l'expérience de Guise, où il y a une centrale du même type qui a été mise en route.
Tout à fait.
Et qui a dû être arrêtée rapidement parce qu'il y avait vraiment des effets délétères sur la santé, notamment des enfants, je crois.
Alors la centrale de Guise, actuellement fonctionne encore. elle est effectivement sous l'objet d'arrêter, enfin, elle fait l'objet de plaintes nombreuses, ce qui fait que la DREAL, devant traiter l'ensemble des plaintes qu'il peut y avoir vis-à-vis du fonctionnement de Guise, la DREAL envisage sérieusement de demander l'arrêt de la centrale de Guise. La centrale de Guise est placée à proximité très immédiate des habitations, puisque les plus proches sont de l'ordre de 200 ou à 300 mètres. Et effectivement, parmi les populations, on a rencontré des personnes qui habitent à proximité immédiate de cette centrale, qui sont victimes de malaise, qui sont victimes de vomissements, qui ont été hospitalisées, et donc qui ont réalisé plusieurs fois des plaintes à chaque fois qu'ils sont tombés malades du fait de cette centrale. Et qui aujourd'hui, par la multiplicité des plaintes qui ont été déposées, aujourd'hui la préfecture de l'Aisne, puisque c'est pas sur notre département, envisage effectivement de voir pour faire arrêter la centrale. Et actuellement, l'entreprise qui possède cette centrale cherche des terrains ailleurs pour s'installer ailleurs que à Guise.
Je suppose qu'il y a quand même une réglementation visant à limiter les rejets atmosphériques dans ce petit type d'activité économique. Alors, est-ce que vous considérez que ces réglementations sont insuffisantes ou bien sont-elles contournées par l'industriel ?
Alors, il y a effectivement le sujet qu'aujourd'hui, nous considérons que la réglementation en vigueur est insuffisante, dans la mesure où aujourd'hui, parmi les pays d'Europe, on est un pays d'Europe plutôt laxiste sur le sujet, où on autorise la construction de ce type de centrale sans réaliser un encapotage. Je rappelle que l'encapotage, c'est ce qui permet en fait de créer une bulle qui retient les polluants et qui permet de les brûler à la source et d'éviter le départ des polluants dans l'atmosphère, mais une construction encapotée totalement coûte beaucoup plus cher qu'une installation non encapotée. Et aujourd'hui, la réglementation française, contrairement à d'autres pays d'Europe, n'impose pas cet encapotage intégral.
Et quel pays d'Europe ?
Alors, Allemagne. Allemagne, a priori.
Surtout
en Allemagne.
D'accord.
Et aujourd'hui, on est face à une situation aussi où, effectivement, les rejets doivent être contrôlés par l'industriel. Et c'est le cas, effectivement, à Guise, où là, l'ADREAL réalise régulièrement des analyses vis-à-vis de ces rejets industriels réalisés par la centrale, et les différents contrôles qui ont été faits sur l'installation de Guise montrent que la centrale ne respecte pas les seuils tolérés. C'est aussi pour ça qu'il y a des plaintes, et c'est aussi pour ça que l'ADREAL revient souvent. C'est-à-dire que malgré les efforts de l'industriel, parce que voilà, l'industriel il est aussi conscient que il cherche aussi à réduire les nuisances, mais malgré tout, avec les dispositions constructives aujourd'hui prévues par la loi, malgré les efforts de l'industriel n'arrive pas à contenir ses rejets. Et lorsqu'ils font des analyses sur les rejets de cette usine, on se rend compte que ces rejets dépassent les seuils limites tolérables vis-à-vis de la santé des populations. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'association que je représente, donc Air Environnement Grand Reims, avons écrit à Madame Vautrin, qui est désormais ministre de la Santé et qui connaît bien le projet, puisqu'elle était à la tête du Grand Reims il y a quelques temps. Et donc, nous avons écrit à Madame Vautrin, entre autres, mais aussi à nos deux députés, puisque nos députés auxquels on avait écrit au mois de juillet l'année dernière nous avaient dit qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'intervenir puisque tout était dans les mains de l'État. Mais on a rappelé à nos députés qu'ils ont entre les mains le pouvoir législatif, c'est-à-dire que c'est eux qui font les lois, les députés en France, encore jusqu'à aujourd'hui. Et en tant que détenteurs du pouvoir législatif, c'est eux qui peuvent aujourd'hui mettre en place des lois qui permettent, alors on parle de notre centrale, mais c'est pour toutes les centrales de France, mettre en place des lois qui limitent les dégâts autour de ce type d'installation industrielle, et qu'on puisse créer des installations industrielles qui gèrent leurs rejets et empêchent d'avoir des rejets nocifs dans l'atmosphère.
Sachant que ce projet, c'est pas seulement une centrale à bitume, c'est quand même un concasseur. Qui dit concasseur dit poussière. Poussières vont être envoyées dans l'air et vont retomber sur le sol. Je crois aussi que ça, c'est une autre nuisance. Et il y a encore une autre nuisance qui est la pollution des eaux, parce que pour... Alors, je disais, il y a un concasseur, mais il y a aussi une centrale à béton. Et ouais, pour aussi fabriquer le béton, il y a besoin d'eau. Et il peut y avoir des rejets d'eau dans les nappes souterraines. Pareil pour la centrale à bitume, il peut y avoir aussi des rejets de produits nocifs dans les nappes phréatiques.
Et ça, c'est quand même des nuisances qui ne sont pas étudiées.
Alors aujourd'hui, le projet, effectivement, c'est un projet très global, puisque en fait, le site qui est retenu et l'entreprise en fait, va créer un gros complexe lié aux bâtiments et travaux publics. Mmh. Et dans ce gros complexe bâtiments travaux publics, on va retrouver un centre de tri des déchets du bâtiment, une centrale à béton, une centrale à enrober et un concasseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre de tri des déchets du BTP et la centrale à béton ne sont pas soumis à autorisation préfectorale. Simple déclaration suffit, puisqu'il est considéré que ces installations-là ne créent pas de nuisances à l'environnement suffisantes pour que le préfet ait besoin de donner un accord. Par contre, concernant l'installation du concasseur et de la centrale à enrober, ces deux dispositifs ont besoin pour être construits d'une autorisation préfectorale. C'est aujourd'hui ce qui bloque le projet, c'est aujourd'hui la personne qui souhaite construire cette installation attend l'autorisation préfectorale pour pouvoir construire la centrale à enrober et le concasseur. Pour ce qui est de la centrale à béton et du centre de tri des déchets, c'est voie libre, entre guillemets, puisque rien ne l'empêche aujourd'hui de faire. Une simple déclaration lui permet de réaliser ses constructions. Par contre, effectivement, le concasseur est considéré comme fortement nuisible pour l'environnement, par le bruit, la poussière, et la centrale à enrober est considérée aussi comme fortement nuisible pour l'environnement, mais aussi pour la santé à proximité, et sont soumis à une autorisation préfectorale qui va vérifier que l'ensemble des dispositions prévues par la personne qui souhaite construire l'installation respecte bien la loi. Aujourd'hui, c'est ce qui est en cours en fait, d'étude, c'est de s'assurer que ce qui est aujourd'hui prévu dans le dossier respecte la loi, c'est ce qui est en train de vérifier la préfecture.
Et en termes de réglementation, il n'y a pas donc une distance minimale d'imposer entre cette activité industrielle et les habitations les plus proches?
Alors aujourd'hui, la règle légale, c'est pas d'habitants à moins de 100 mètres d'une centrale enrobée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le site, il y a une famille qui habite là. Alors voilà, c'est des gens du voyage qui sont sédentarisés plus ou moins, mais qui habitent là depuis plus de 25 ans et qui sont à moins de 100 mètres de la centrale. Et donc légalement, pour moi, on n'a pas le droit aujourd'hui. C'est un petit peu une manière très peu politiquement correcte de déloger des gens qui sont là depuis 25 ans que de leur installer une centrale enrobée ultra nuisive juste à 100 mètres de chez eux. Alors peut-être que je ne sais pas aujourd'hui sous quel régime ils habitent là-bas, mais en tout cas, la réalité, c'est qu'ils habitent là-bas, qu'ils vivent là-bas depuis 20 ans et que là, d'une manière pas très orthodoxe, on essaye de les faire partir en leur installant un site polluant à côté de chez eux.
D'autant pourtant, les JO ne vont pas se délocaliser dans ce quartier-là de Reims. Hein, parce que
non, ça ne risque pas.
Il y a beaucoup de nettoyage social en ce moment aussi sur les sites des JO à Paris.
Ouais, ouais.
100 mètres, donc, entre, ça c'est la réglementation, entre l'industriel et les premières habitations.
Tout à fait.
Et donc, tu évoquais l'encapotage en Allemagne. Moi, j'ai lu qu'en Allemagne, c'est la distance minimale, c'est 5 km.
Donc, voilà.
On n'est pas en Allemagne.
On est loin, quoi.
Ouais. On est très très loin, et c'est pour ça qu'on a vraiment attiré l'attention de Madame la Ministre et de nos députés, puisque réellement c'est eux qui ont les leviers en main, c'est eux qui peuvent réécrire la loi, qui peuvent prendre des mesures légales pour garantir la sécurité des concitoyens, en écrivant noir sur blanc dans la loi que on doit prendre des mesures constructives afin d'assurer la sécurité des riverains et puis effectivement des distances qui soient beaucoup plus protectrices que 100 mètres, puisqu'aujourd'hui les études scientifiques démontrent que dans un rayon de 3 km autour d'une centrale à enrober, on peut avoir le développement. Alors il n'y a aucune étude, enfin il y a des études qui le disent, après elles sont toutes plus ou moins contredites, mais en tout cas, il y a des études, il y a des scientifiques qui ont démontré que dans un rayon de 3 km autour de la centrale, on avait une recrudescence de cancers, dont des cancers pédiatriques. Donc là, si on prend l'exemple de notre centrale installée à proximité de la Neuvillette, c'est-à-dire que dans tous les quartiers qu'on a cités, la Neuvillette, Orgeval, Bétheny, Trois-Fontaines, etc., suivant certaines études scientifiques, elles sont controversées certes, mais il y a quand même des gens qui ont trouvé et qui ont fait des statistiques, le risque de cancer est multiplié sur ces quartiers-là, puisque tous ces quartiers que je viens de citer sont à moins de 3 km de la centrale enrobée qui est prévue.
Mais c'est bien d'avoir sollicité deux députés locaux, puis d'une façon générale le pouvoir législatif, parce que quand on fait un petit balayage rapide sur Internet à propos de ces centrales d'enrobés, on remarque qu'il y a une kyrielle de luttes pour faire cesser certaines activités ou pour empêcher que des centrales enrobées comme ça, avec dégagement de polluants en plein air, ne soient développées. Quoi. C'est assez phénoménal, hein, la contestation qu'il y a autour de ces projets.
Oui, partout en France.
Oui, oui.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une recrudescence des projets. C'est qu'aujourd'hui, on est touché sur le quartier La Neuvillette, Orgeval, Trois-Fontaines, etc. Mais même Tourins, ça sera impacté puisque les vents, ils tournent. Hein. C'est pas parce qu'il y a les vents dominants dans un sens que les vents, ils vont pas rester tous les jours. Il y a des jours où on aura des retours d'est, il y a des jours où on aura du vent du sud. Et tout le monde prendra sur Reims et périphérie. Tout le monde aura le droit à ses nuisances. Ça, c'est garanti sur facture. Pour autant, ce qui est assez impressionnant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce type de projet se multiplie un peu partout. Dans la Marne, on en a aussi un deuxième du côté de Montelon. Et en fait, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ultra lucratif comme activité, puisque suite à des dispositions légales, parce que nos députés savent aussi prendre des lois qui vont dans le sens de la réindustrialisation de la France, de manière légale aujourd'hui, depuis 2020, la quantité d'enrobés qu'on pouvait réinjecter dans les nouvelles enrobées, a augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, alors sous couvert d'une soi-disant vertu environnementale, c'est-à-dire de recyclage d'anciennes enrobées, bien on vient donner un énorme possibilité de faire de la marge sur ces activités-là, à savoir qu'aujourd'hui, avant 2020, je crois que c'était moins de 20% d'enrobées anciennes qu'on pouvait réintégrer dans l'enrobée nouvelle. C'est-à-dire, je m'explique, une ancienne route, on venait la gratter, on enlevait l'ancienne route, donc il y avait un frésat, et on avait le droit de remettre que 20% de ce qu'on avait enlevé de l'ancienne route pour recréer de la nouvelle enrobée.
Mais les anciennes routes, c'est du goudron.
Oui.
C'est pas de l'asphalte.
Non.
Parce que l'enrobé, c'est de l'asphalte, c'est ça?
Oui, mais en tout
cas. Et en principe, le goudron, on n'a pas le droit de le réutiliser.
Eh bien, aujourd'hui.
Mais il était réutilisé.
Ah ouais.
Aujourd'hui, il est réutilisé.
Historiquement, on n'avait pas le droit.
Ouais.
En 2020, on avait le droit de réintégrer 20% d'une ancienne route dans une nouvelle enrobée. Aujourd'hui, on est à 100%. C'est-à-dire que c'est monté graduellement. Alors, je ne sais plus les dates et avec précision. Mais petit à petit, on a eu le droit de mettre 20%, 40%, 60%. Et aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industriel, il peut aller gratter une ancienne route, récupérer tous les frésats de l'ancienne route dans lequel on mettait des choses. Enfin, on parle des routes qui ont été construites dans les années 50. Hein, donc, en termes de produits qu'on mettait dans les routes dans les années 50, voilà, j'imagine qu'on ne mettait pas des produits aussi tant contrôlés que maintenant, même si encore aujourd'hui, les produits sont nocifs.
Alors que le goudron est interdit d'usage depuis une quinzaine d'années, je crois, c'est ça. Hein.
Tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, on a le droit de récupérer ces anciennes routes. On les passe dans un concasseur, on réchauffe ces produits anciens qui contiennent du benzène, des composés organiques volatiles, encore plus que dans les produits modernes. Et donc, on remet tout ça en chauffe. Donc, on remet ça à l'atmosphère puisque ça s'évapore en partie. Et on va recréer une nouvelle enrobée. Donc en fait, en termes de matière première, on paye beaucoup moins de matière première pour créer une matière secondaire qu'on vend au même prix que la matière qu'on la vendait il y a quelques années. Donc la marge pour un industriel qui veut se lancer dans cette activité-là, elles sont vraiment très intéressantes. Et c'est pour ça que les produits... Enfin, c'est pas innocent que les projets se démultiplient sur l'ensemble de la France et qu'on en retrouve partout sur la France de ce type de projet et qu'on voit du coup les gens qui sont impactés par ces centrales bien du coup se soulever vis-à-vis de ces projets.
Avec des rentabilités à deux chiffres.
Tout à fait. Et à côté de ça, nous, ce qu'on demande, c'est pas de. On leur demande pas de ne pas travailler. On leur demande de travailler en sécurité pour les riverains. Et donc, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que les mesures constructives qui soient prises, même si elles coûtent cher, qu'au moins, il y ait des mesures constructives qui soient prises pour assurer la sécurité des riverains. L'encapotage complet, certes, ça double le prix de la centrale, mais je pense pas que ça rende l'activité non rentable.
Et du coup, ce projet, une question que je me pose, c'est un projet public, privé, un partenariat? C'est quoi comme projet
un projet privé, c'est la société Kensel qui a déposé ce projet à la préfecture. Donc c'est un projet privé.
Est-ce que tout à l'heure tu parlais de transport public ou... dans les trois projets, je ne sais plus ce que tu as dit.
Non, c'est BTP. C'est-à-dire, il y a une centrale de tri... des déchets du BTP.
D'accord, ok.
Donc tout ce qui va être déchets du BTP, mais là aussi il y a un sujet, c'est qu'on va recycler tous les produits du BTP, c'est-à-dire des produits de déconstruction du BTP, donc des produits qui ont pu potentiellement être construits avant ou dans les années 70 ou avant, donc qui potentiellement peuvent contenir de l'amiante.
Sachant aussi qu'il peut y exister d'autres alternatives au bitume, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser l'argent que verse l'État dans de la recherche pour trouver d'autres alternatives au bitume pour les routes. J'avais lu dans un petit magazine de la Marne que du côté de Bazancourt, ils avaient utilisé des produits naturels pour recouvrir la route. Donc il existe d'autres alternatives, on n'est pas obligé de reprendre du bitume.
Des alternatives qui utilisent des algues, j'ai lu, je ne sais pas.
Oui, il y avait d'autres solutions.
Alors effectivement, il existe pas mal d'alternatives au bitume pétrolier, puisque forcément le bitume aujourd'hui, on l'appelle bitume pétrolier puisqu'il est issu de l'industrie pétrolière. Et c'est du fait qu'il est issu de l'industrie pétrolière aussi qui comporte des composés organiques volatiles et du benzène, et qu'il est aussi nocif. Après, aujourd'hui, c'est des projets qui sont, on va dire, pour l'instant à l'état plutôt d'expérimentation, mais qui pourraient se développer dans l'avenir, effectivement, pour remplacer le bitume. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas forcément contre le bitume de manière bornée. On sait très bien qu'il faut du bitume, on sait très bien qu'il faut des routes, on prend tous notre voiture. Donc nous, l'idée, c'est pas d'être contre le fait d'avoir des usines à bitume. La vraie question pour notre association, c'est de se dire comment on les construit pour préserver la santé des riverains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit ces usines sans du tout se soucier de nos enfants, des riverains, de la nature. Ce que nous, on souhaite, c'est que si on doit construire de telles industries, eh bien, on prend les normes constructives les plus drastiques pour s'assurer que la santé des riverains est assurée. Il faut penser au fonctionnement normal de l'installation, c'est-à-dire de l'exploitation normale de l'installation, c'est-à-dire que c'est une installation qui va tourner 5 jours sur 7, de 6h à 20h. Donc pendant ce temps de travail, il faut que les polluants ne puissent pas sortir, que là on peut prendre des mesures constructives pour encapoter, pour éviter que les polluants ne sortent, mais ça coûte cher, mais il faut le faire, ça coûte cher, mais pour moi ça reste rentable et on peut le faire. Et ensuite, il faut aussi prendre des normes constructives en cas de sinistre. Aujourd'hui, moi, je suis inquiet sur aussi le risque d'incendie sur l'installation. Aujourd'hui, il y a effectivement des mesures qui sont prévues en cas de sinistre. Mais en cas de sinistre, imaginons un sinistre avec des cuves à enrobées qui brûlent à moins de 900 mètres d'une école. La catastrophe qu'on pourrait avoir est terrible quand même. Il faut avoir ça en tête. Et aujourd'hui, les réserves d'eau pour les pompiers, elles se trouvent sous le vent dominant côté fumée. Je ne suis pas sûr que les pompiers pourront accéder aux cuves de secours. Donc, le vrai sujet qu'il va falloir se poser, c'est et l'exploitation et le risque de sinistre. Parce qu'en cas de sinistre, si demain il faut confiner les enfants des écoles primaires, maternelles, et même qu'on puisse, j'imagine, avoir des vraies conséquences sur la santé de nos enfants en cas de sinistre sur le site, quelque part, je ne voudrais pas être à la place du préfet qui aura signé ou du sous-préfet qui aura signé. Clairement, aujourd'hui, nous, on l'a rencontré le 18 janvier, le sous-préfet, je pense qu'il a conscience aussi quand même de ça, de sa responsabilité vis-à-vis de la sécurité des habitants, des riverains, mais aussi des publics sensibles, si demain il y a un sinistre sur le site. C'est-à-dire que lui, quand il va signer, le préfet, son accord, il est censé avoir vérifié que l'installation respecte la loi et qu'elle ne crée pas de risque vis-à-vis des riverains. Si, en cas de sinistre, il y a un risque pour les riverains, clairement, sa responsabilité est immédiatement engagée. Et je pense que ça, il en a conscience, mais c'est un vrai risque aujourd'hui, à la vue du dossier tel qu'on a pu l'étudier, nous, aujourd'hui.
Sans compter la santé des travailleurs du bitume,
oui, j'y pensais,
à l'intérieur de la centrale. Et ça, il n'y a rien dit dans le projet Kensel.
Non, et pour ça, on a pas mal d'études, sur, malheureusement, sur les gens qui travaillent oui, tous les produits bitumineux. Hein. Ça, c'est une réalité. De toute façon, on le sait, le bitume, avec les composés organiques volatiles, avec le benzène, tous les composés en fait, qui sont polluants fortement dans le bitume et qu'on retrouve d'ailleurs dans les fiches de données de sécurité, puisque dans le dossier de déclaration qui a été déposé par l'entreprise qui souhaite réaliser le site et qui sont déposés sur le site de la préfecture, on a aussi les fiches de données de sécurité des produits chimiques qui seront utilisés sur le site. Et on retrouve dedans les effets reprotoxiques, les effets qui peuvent générer aussi des cancers. On le retrouve. Donc, on sait très bien que les gens qui seront exposés à ces produits-là peuvent générer des cancers ou des effets reprotoxiques, puisque ces molécules-là, on le sait, sont toxiques pour l'ADN. Aujourd'hui, on le sait, c'est que sur les gens qui travaillent sur les routes, le risque de développer des cancers est plus important. Alors, il y a eu des études de fait, plus ou moins controversées aussi. Hein. C'est vraiment le problème avec les études. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dispose de beaucoup d'études qui nous disent qu'effectivement, il y a un risque, mais la plupart de ces études sont controversées parce que soit il n'y a pas assez de personnes dans l'étude, soit voilà. Elles sont toujours remises en cause. Alors, on imagine bien que le lobbying aussi du routier est tellement fort en France qu'il y a toujours possibilité d'aller controverser ces études scientifiques. Pour autant, on dispose d'études scientifiques. J'assume, moi, le côté qu'elles soient controversées. Je peux le comprendre. Et c'est pour ça que je ne m'appuie pas en disant je suis certain que ça provoquera des cancers. Non, ça, j'en suis pas certain. Ce que je sais, c'est que j'ai un faisceau de présomption suffisant pour être inquiet. C'est-à-dire que j'ai suffisamment d'études scientifiques par des gens suffisamment calés au niveau scientifique pour me dire alerte, il y a une alerte et c'est pas quelque chose d'anodin. Je veux pas dire demain attention vous allez tous prendre un cancer, c'est pas du tout le sens de mon discours. Par contre je dis attention, il y a des scientifiques qui nous alertent sur les dangers du bitume, que ce soit pour les travailleurs qui travaillent dans le bitume et que ce soit pour les riverains qui sont autour de ces centrales à bitume. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre alerte, c'est de se dire, alerte, ce produit, ces produits utilisés, on le sait, ces composés organiques volatiles et ce benzène, ils sont dangereux pour l'ADN des êtres vivants. Donc forcément, il y a un risque pour nous, il y a un risque pour les animaux, et puis il y a un risque qui est loin d'être négligeable, il y a un risque pour nos vignes. Et je rappelle que le poumon économique de la région, c'est quand même le champagne, et que aujourd'hui, autour de l'usine, on a quand même tout le massif Saint-Thierry. Et il y a eu des études de fait, là aussi encore une fois controversées si vous voulez, ok, je prends le fait qu'elles puissent être controversées, pour autant il y a des études qui alertent en disant attention sur les vignes, bah forcément c'est des êtres vivants, donc ils ont de l'ADN, donc l'ADN il va être altéré par les produits composés organiques et benzène, et attention sur les vignes, on a eu dans le Chablisien des études qui ont été faites vis-à-vis d'un projet de centrale enrobée dans le Chablisien, où on nous dit attention sur les vignes, ce produit-là est extrêmement nocif et peut conduire à la mort de cultures de vignes.
Bon, ben alors, j'achète plus de bouteilles de Chablis, moi.
Allez, on fait moi, j'avais, justement, par rapport au fait de recycler du goudron. Le goudron, bon, en lui-même, il est polluant. Mais en plus, si c'est quoi, les routes, dessus, il y a des résidus de pneus, il y a des résidus de carburant, quoi, carburant brûlé, il y a des résidus d'huile. Donc.
Dans les vieilles routes, il doit même y avoir de l'amiante. Quoi. Alors, je ne sais pas si vous triez tout ça avant de faire chauffer.
Ah bah non,
je pense qu'effectivement, l'idée, c'est bien de récupérer le fréza. Et le fréza, en fait, très clairement, hein, c'est un engin de travaux publics qui vient gratter la route et qui met en petits morceaux le bitume existant, enfin le goudron existant, et puis on récupère ça, on chauffe ça effectivement avec tout ce qui peut y avoir dessus.
Oui, il y a de la pollution supplémentaire.
Tout ce qui pouvait exister dessus. Quoi.
Vous êtes monté en association, est-ce que vous arrivez à communiquer facilement? Est-ce que les populations qui vont être impactées vous reviennent ou comprennent votre association et le but que vous avez?
Et puis tant qu'on y est, votre association, elle existe depuis combien de temps? Elle existait-elle avant ce projet ou est-ce le projet qui a entraîné la création de cette association?
L'association, elle existe suite à ce projet. Elle a été créée le 29 juillet 2023. Donc elle est assez récente. Pour ce qui est de la communication auprès des personnes, ça dépend vraiment des gens et de leur sensibilité. On a beaucoup de gens qui comprennent et aujourd'hui nos 190 adhérents, je pense qu'ils sont convaincus des risques qu'il peut y avoir vis-à-vis de ce projet. Après il y a des gens qui aujourd'hui ne comprennent pas, mais en fait il y a beaucoup de gens qui tant qu'ils ne voient pas, qui ne vont pas voir, sentir, vont peut-être pas se rendre compte, mais le problème, c'est que le jour où on sentira les odeurs de bitume, et les jours où on sera, où nos rosiers vont commencer à jaunir, et puis qu'on va sentir les odeurs de bitume, et qu'on pourra plus manger nos salades dans notre jardin, il sera trop tard. Mais là, effectivement, ce jour-là, je pense qu'on aura beaucoup plus de monde dans l'association, mais malheureusement, on aura beaucoup moins aussi de leviers d'action pour éviter l'implantation de ce site industriel. Aujourd'hui, c'est vraiment très aléatoire au niveau des personnes qui... Je comprends qu'on peut être réticent et pas forcément... Parce que c'est difficile de se projeter dans l'avenir et de se projeter avec ce projet. On se dit aussi qu'un projet industriel, bah, ça peut être bon aussi pour la santé économique d'une région, etc. Je contredis pas. Par contre, faire des projets industriels, oui, mais pas à n'importe quel prix et surtout en étant très très vigilant par rapport à la santé des populations environnantes. Donc voilà, on a un accueil plus ou moins... Par contre, ce qui est important, est-ce que, parce que malheureusement, ce qu'on va vivre sur Reims, parce qu'on a beau se battre, on peut craindre que nous allons le vivre sur Reims, c'est-à-dire l'implantation de cette centrale enrobée. Si on veut se projeter un petit peu dans l'avenir et voir ce que ça va donner, il y a sur YouTube une vidéo qui s'appelle « Bitume, la part d'ombre ». Vous tapez juste sur YouTube « Bitume, la part d'ombre ». Et puis, si vous arrivez à la regarder jusqu'au bout sans l'éteindre, et être complètement désespéré, c'est que vous avez un fort caractère et que vous tenez fort le choc, puisque cette vidéo Bitume la part d'ombre, en fait, elle permet de partager l'expérience d'autres qui ont vécu avant nous ce qu'on va vivre sur Reims une fois que notre centrale à bitume fonctionnera. Et si vous n'êtes pas convaincu après ça, voilà, c'est que vous le serez certainement jamais.
Mesdames et messieurs, approchez, approchez. On recrute. Le moment est venu que nous nous réveillons, que nous nous élevions tous ensemble pour la nature, pour l'amour de nos animaux, pour l'amour de nos plantes et de tous nos végétaux. Mais tous unis, nous sommes un. Nous pouvons, nous voulons, nous allons changer le monde.
On recrute des glaneurs de poubelles, préparateurs de manifs, des crieurs de ruelles et des bloqueurs de périphes, des faiseurs de soupes populaires, esprits créatifs, penseurs libertaires, des paysans révoltés, restaurateurs vegan, et même des dresseurs de tentes au bord du canal. On recrute des ouvreurs de cages, des gens qui ont dans le cœur la notion de partage, des créateurs de mode sur coton équitable, chanteurs qui jouent gratos sur violon et guitare, toute personne animée d'un amour véritable. Ça sera long et délicat. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute des passionnés, des oiseaux, des pêcheurs qui respectent ce qu'ils sortent de l'eau, des vendeurs en AMAP, des producteurs locaux. L'apiculteur est seul face à Monsanto. On recrute des sourires et des camarades, capables dans le pire de se donner la collade. Vignerons, rebelles ou banquiers repentis, des zadistes qui se dressent contre les projets inutiles, des lanceurs de bombes de graines, des hackers par centaines, des faucheurs volontaires, des journalistes, des vrais qui vont chercher l'information et refusent de se la faire dicter. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On recrute de belles âmes pour l'accueil des réfugiés et des voleurs de chaises à la BNP, des protecteurs des grands singes, d'une nature sans défense qui dénonce un tourisme à dos d'éléphants, des lanceurs d'alerte et parfois de cailloux. On recrute des poètes, des concepteurs de yourtes, clowns activistes, humoristes engagés, maraîchers urbains dans des jardins partagés. On a besoin de sages qui connaissent les plantes, des tenteurs d'une médecine différente. On recrute des peintres au grand cœur pour colorier le monde de toutes les couleurs. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde, de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup. On a besoin de vous, on veut changer le monde. On a besoin de fronde,
de graines et de cailloux. On a besoin de fous qui pensent que ça ne tourne pas rond. On a besoin d'amour pour tenir le coup.
Avez pu avoir des échanges avec la municipalité ou pas du tout?
Alors, avec la municipalité, au départ, on a écrit à la municipalité au tout début de l'association, voire même avant qu'on soit en association, avec très peu de réponses, puisque bon, la municipalité de Reims, elle est quand même à l'origine de la vente du terrain. Elle est aussi à l'origine du changement de destination de ces terrains-là. C'est-à-dire qu'au départ, ce ne sont pas des terrains qui étaient à destination industrielle. Et c'est elle qui, en modifiant le PLU, a modifié la destination de ces terrains-là. C'est elle qui a vendu le terrain, donc avec un prix plutôt... Mais bon, ça, c'est normal. Hein. On est vraiment à la périphérie de Reims, mais peu importe. Donc aujourd'hui, la municipalité de Reims, elle se sentait... Alors, elle n'est pas porteuse du projet, mais à juste titre, elle se sentait une responsabilité dans le projet. Aujourd'hui, clairement, depuis 15 jours, 3 semaines, je trouve que la tonalité de la municipalité de Reims change. Je pense qu'ils commencent à se rendre compte de la réalité de ce qu'est une centrale à bitume. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts à la discussion. On a eu, suite à notre manifestation de lundi, de ce lundi, une discussion très intéressante avec le directeur adjoint du cabinet du maire. Et ils sont beaucoup plus ouverts qu'ils ne l'ont été à nos premiers courriers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils commencent à s'interroger. Et je pense que ce qui peut aussi faire prendre conscience à la municipalité de Reims que ce projet est peut-être plus nocif que ce qu'ils avaient pu imaginer au départ, c'est que les communes envoisinantes commencent elles aussi à s'exprimer contre le projet. Je rappelle que la mairie de Bétheny s'est exprimée contre, la mairie de Saint-Thierry s'est exprimée contre. Donc finalement, la municipalité de Reims commence à se retrouver un peu isolée au milieu de plusieurs municipalités qui, elles, commencent à être contre ce projet. Alors après, il ne faut pas non plus jeter la pierre aux élus municipaux. Hein. C'est que peu de gens connaissent la réalité de ce qu'est une centrale enrobée. Tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, c'est difficile de s'en rendre compte. Nous, aujourd'hui, on a réussi à avoir beaucoup d'informations parce qu'on a été sensibilisé par des personnes qui vivent à côté de centrales enrobées. On a rencontré les gens de Guise. Il y a des personnes de notre association qui sont allées à Guise pour se rendre compte, pour vivre les choses, pour sentir, pour voir, pour respirer, et qui ont vite compris la réalité d'une centrale enrobée. Hein. Le mieux, c'est un vie ma vie. Hein. Donc, ils sont allés à la rencontre des habitants de Guise et ils ont vraiment connu ce qu'ils pouvaient vivre. Et là, il y a une prise de conscience. Quand on vit les choses, il y a une prise de conscience. La mairie de Guise, qui, elle, avait voté pour le projet, avait mis en œuvre le projet. Une fois que le projet a été en place, ils ont vraiment énormément regretté leur choix. Mais il était trop tard.
Sachant que Guise est 4 fois plus petite que celle de Reims.
Tout à fait. La centrale de Guise, c'est une production de 25 000 tonnes d'enrobés par an. Le projet de Reims, c'est une... Alors, suivant les chiffres présents dans le dossier de déclaration à la préfecture, la centrale enrobée de Reims prévoit 100 000 tonnes enrobées par an. Alors... Suite à ce que... Parce que ce chiffre, je l'ai déjà donné au journal L'Union, à France Bleu Champagne Ardennes. Et suite à ce chiffre que j'avais donné, la personne qui est aujourd'hui porteuse du projet avait répondu que c'est pas parce qu'ils ont déclaré 100 000 tonnes qu'ils produiront 100 000 tonnes. Oui. Après, voilà. Là, c'est comme j'ai le droit de rouler à 130 sur l'autoroute, mais monsieur l'agent, je vais rouler qu'à 80. Non, voilà. On peut essayer d'y croire, mais voilà. Si j'ai une autorisation pour faire 100 000 tonnes et que la rentabilité de mon installation permet de me faire 100 000 tonnes et que mon papier est signé du préfet et me donne l'autorisation de faire 100 000 tonnes, je vois pas pourquoi je produirais moins. Après, peut-être, hein, mais la vertu... J'ai du mal à croire de ce côté-là qu'on se limiterait. Pour quelle raison d'ailleurs, je ne sais pas.
Et on n'a pas du tout parlé de la pollution engendrée par tous ces camions qui vont circuler pour amener les fraisas, les différents composants de ce qui va sortir de la centrale et des camions qui vont sortir pour emmener le bitume dans différents endroits.
Alors, de mémoire, parce que là, je n'ai plus les chiffres, je les avais à une époque par cœur, mais je crois que c'est 80 poids lourds jour par sens. C'est-à-dire 160, en fait. Et ces 80 poids lourds, étant donné le site où la centrale va se situer, c'est le boulevard des Tondeurs. Je ne sais pas si vous connaissez la sortie du boulevard des Tondeurs vers Leclerc-Saint-Brice.
Oui, on le voit très bien. Ouais, là.
Si vous le voyez bien, dans une heure et demie, deux heures, c'est-à-dire là, on est un vendredi, donc vers 16h, le vendredi, vous voyez un peu le trafic qu'il peut y avoir.
Ouais.
Rajoutez là-dessus les 80 poids lourds et vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Il n'y a pas besoin de faire de dessin. Je pense que tout le monde se rend compte.
Alors, toi, on parlait de Polisson, tu parlais des vignes, du champagne et des projets analogues. Il me semble qu'il y avait un projet à Épernay. Alors, que les maisons de champagne avaient demandé à faire une étude d'impact dessus. Je ne sais pas ce qui a été fait, parce qu'en fait, le projet a été abandonné. Et donc, je me demandais savoir si l'annonce de la demande de cette étude avait eu un impact sur le fait qu'ils décident d'abandonner le projet. Savoir si l'étude allait être faite. Et donc, peut-être que vous avez pris en contact avec les personnes d'Épernay pour savoir... Bah, pour avoir des retours sur ces études-là, ou si vous avez pris contact aussi pour leur demander quelles autres études ils avaient pu avoir fait.
Alors, pour Montelon, puisque c'est Montelon à cause d'Épernay, le collectif s'est constitué après notre association. Donc, c'est plutôt eux qui sont venus nous demander des informations, mais eux, effectivement, dans le projet, étant donné la proximité avec les vignes, étant donné l'implication du maire d'Épernay contre le projet, le projet aujourd'hui est ajourné. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement abandonné. Hein. Mmh. De ce que j'ai compris, le projet n'est pas complètement abandonné aujourd'hui. Hein. Mais pour autant, il est ajourné et effectivement, pour l'instant, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, il n'y a pas d'études spécifiques de réaliser sur ce projet à l'heure actuelle. Pour autant, ce qui est certain, c'est que effectivement, les maisons de champagne s'en sont emparées. Le comité champagne, ce qu'on appelait avant CIVC. Le CIVC, s'en est emparé. Pour notre projet à nous, on commence à sensibiliser beaucoup les viticulteurs de la zone Saint-Thierry parce que du goudron dans le champagne c'est beaucoup moins vendeur et c'est quand même surtout qu'on a plusieurs viticulteurs qui sont en viticulture biologique sur le massif de Saint-Thierry, donc eux commencent sérieusement à s'inquiéter parce que leur vigne est encore plus fragile peut-être parce qu'elle a encore moins l'habitude de voir des composés chimiques venir titiller ses feuilles, donc il y a un vrai sujet sur les maisons de champagne et on va rencontrer les gens des maisons de champagne courant de la semaine prochaine.
D'accord.
Sur le massif Saint-Thierry, puisque c'est vraiment le massif Saint-Thierry qui est le plus exposé. Hein. Si vous prenez la centrale là où elle est, il n'y a rien qui arrête. Alors, c'est pas le vent dominant, certes, le vent dominant va plutôt sur la ville de Reims, ce qui n'est pas très globe quand même. Mais comme je dis, hein, le vent dominant, c'est peut-être c'est plus que 150 jours par an, c'est de l'ordre de 200 jours par an le vent dominant. Mais il reste quand même, pour finir l'année, une centaine de jours durant lequel on peut avoir des retours d'est ou autre. Où là, si le vent souffle côté est ou droit sur Saint-Thierry, c'est Saint-Thierry qui prendra. Et donc les vignes de Saint-Thierry et du massif de Saint-Thierry, Tille, Pouillon, etc. Donc clairement, le sujet est entier pour leurs vignes. D'un point de vue image, ça me semble tellement incroyable de garder cette image du champagne qui peut être altéré par une usine de goudron. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et du coup, c'est là aussi qu'on se dit, certes, c'est une usine peut apporter une activité économique dans une ville, mais si on tue une activité économique aussi vitale que le champagne sur notre région, il n'y a aucun intérêt.
Surtout que c'est la seule activité, hormis la cathédrale, Reims ne fait Reims ne fait vraiment la pub que du champagne et de la cathédrale.
Ouais.
Donc, la cathédrale sera un peu plus noire, mais bon, ça on arrive à la détacher facilement. Et, par contre, le champagne, c'est un peu plus embêtant. Sachant que pour l'activité économique, il faut savoir que le site, certes, on nous déclare, je ne sais plus, c'est 11 employés sur le site, sachant que l'entreprise qui est actuellement implantée à Saint-Brice emploie déjà 8 ou 9 personnes. Donc c'est un plus 3. Hein. C'est pas non plus l'activité économique du siècle. Hein. C'est pas 50 emplois sur la région.
Oui, c'est même assez étonnant, surprenant, du moins pour moi, ouais, qu'on puisse faire tourner une telle installation industrielle avec comme une dizaine de bonhommes. Quoi, c'est
tout sera automatisé.
Tout est automatisé. Tout fonctionne de manière automatique. Aujourd'hui, de toute façon, beaucoup de sites industriels sont automatisés. Mais en fait, c'est une activité qui nécessite très peu de main-d'œuvre, puisqu'effectivement, tout est automatisé. et tout fonctionne en quasi-autonomie.
Est-ce que ce projet-là pourra avoir lieu dans le coin, mais dans une zone plus éloignée des habitations? Est-ce que la mairie vous en a parlé, ou est-ce que vous avez peut-être repéré des endroits où on pourrait faire un tel projet?
Alors, je pense que, étant donné la Marne, qui n'est quand même pas la zone la plus peuplée de France non plus, oui, et nos départements voisins encore moins que la Marne, je pense qu'effectivement, il y a moyen de trouver des zones sans habitation dans un rayon de 3 km autour qui permettraient d'installer ce type d'installation et donc d'être moins nuisible. Au-delà de ça, nous, ce qu'on veut, c'est surtout pas exporter le problème ailleurs.
Bien sûr.
Ce qu'on souhaite en tant qu'association, c'est vraiment que soit prise des dispositions légales qui interdisent d'avoir des habitations dans un rayon de 3 km autour de la centrale, ça serait franchement le minimum, et qui impose les dispositions constructives pour s'assurer qu'aucun polluant ne sort de l'installation. C'est techniquement possible, ça coûte cher, mais c'est techniquement possible.
Oui, parce que pourquoi l'avoir, pourquoi la mettre là, surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire pour aller de l'autre côté de l'autoroute, hein. Et là, il y a aussi de la place de ce côté-là.
Après, de l'autre côté de l'autoroute, on se rapproche aussi des vignes de Saint-Thierry, donc je ne suis pas certain que le calcul soit très bon. D'accord, pour nos amis viticulteurs. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à Reims, on avait des centrales à enrobées qui ont existé, qui aujourd'hui sont arrêtées, et ça, je n'ai pas réussi à obtenir la raison pour laquelle ces business-là sont arrêtés. Donc c'est quand même des business qui existaient, des centrales qui existaient. Il y en avait une à Saint-Léonard. Et il y en avait une côté sortie tondeur, route de Vitry, c'est oui. Ça. Peut-être qu'elles étaient trop proches des habitations, ça je ne sais pas dire. De tête, celle de Saint-Léonard me semblait pas proche d'habitation, mais je vois pas toute la carte, j'ai pas toute la carte en tête, mais il me semblait quand même qu'elle était plus éloignée des habitations. Et surtout, le vent dominant, je rappelle, on est dans l'hémisphère nord, les vents dominants soufflent d'ouest en est. Donc là, on était plutôt du côté est de la ville. Donc les vents dominants, on va dire que les 250 jours de l'année, au moins le vent envoyait la pollution en dehors de la ville, en dehors des habitations. Là, ce qui est complètement assez surprenant dans le projet qui est porté, c'est qu'on l'installe à l'ouest de la ville. Donc la plupart des jours de l'année, le vent porte les polluants sur la ville, ouais, et sur l'ensemble de la ville. Quand je dis Neuvillette, il n'y a pas que Neuvillette. Hein.
Orgeval,
Neuvillette, ouais. Trois-Fontaines, mais même le quartier de la gare, il n'est pas si loin que ça, Vaudoiseau.
Hein.
Je rappelle qu'on a quand même un gros projet actuellement qui est l'implantation de l'école Néoma le long du canal.
Ouais. Ils sont en plein dedans.
Hein. Ils sont en plein sous l'influence de ce site industriel. Hein. Ouais.
Il existe aussi, moi j'avais lu qu'il existait des petites centrales, mais qui se déplacent avec la construction des routes, et des petites centrales à bitume, portatives, je dirais non, mais sur
mobile,
des camions.
Tu veux dire, oui.
Voilà, merci.
Alors,
mobile, ça existe, et là, comme ça, tout le monde. Par contre, les travailleurs de ces engins-là sont très directement touchés par tout ce qui est émission de gaz quand ils répartissent le bitume sur le sol.
Bah, le sujet, c'est le problème de ces petites centrales mobiles, on va dire, c'est que du coup, comme elles sont mobiles, on va prendre encore moins de dispositions constructives pour éviter la sortie des polluants. Donc, je ne suis pas certain que ça soit la solution idéale. Pour autant, des fois, elles ne sont pas si petites que ça, ces centrales mobiles. Il faut savoir que quand il y a des réfections d'enrobés sur les autoroutes, sur les grosses autoroutes, les entreprises se déplacent avec leurs centrales enrobées mobiles. Je m'en rappelle en avoir vu une, puisque moi, je suis originaire de Beaune, et je vais de temps en temps par là-bas, du côté de Sérigny, à côté du vignoble Bourguignon, c'est pas mieux que le champagne. Mais par contre, c'est vrai que c'est dans un temps court, puisqu'elle a dû rester 2-3 mois sur place, mais elle était géante, elle était énorme. Mais effectivement, c'était une mobile, mais par contre, aucune disposition constructive. On voyait bien la cheminée, on voyait bien les camions dessous, on voyait bien que quand les camions étaient remplis, en fait, ce qui est assez impressionnant, on le voit sur les vidéos à guise aussi qui ont été faites, c'est que quand on remplit les camions, les trémies de bitume se vident dans le camion, et là on a une fumée bleue. c'est pas de la vapeur d'eau, hein. La vapeur d'eau, généralement, c'est blanc. Et donc, on a cette fumée bleue qui s'évapore et qui monte dans l'atmosphère. Et je l'avais vu aussi, du coup, à Serigny, mais je l'ai vu aussi à Guise. Et on voit cette fumée bleue. Et en fait, il n'y a rien qui retient cette fumée bleue. Et donc, ces composés organiques volatiles qui composent cette fumée bleue. Parce que cette fumée bleue, si elle est bleue, c'est justement parce qu'il y a des composés organiques issus du pétrole. On voit bien qu'ils s'évaporent dans l'atmosphère. Et après, il n'y a rien qui les capte. Hein. Donc, au moment où on remplit le camion, on ouvre la trémie. Et là, on a cette fumée bleue qui s'évapore, qui sent très mauvais d'ailleurs, et qui part suivant le vent. Et effectivement, si on regarde, nous, vis-à-vis du projet en question, le vent, il va l'amener sur Reims quelque part, en priorité. De temps en temps, s'il y a un retour d'Est, ça ira sur Saint-Thierry. Mais la plupart du temps, ça viendra chez nous, sur la ville de Reims.
Et les centrales d'enrobés qui existent pour l'instant en France, hein, on sait combien il y en a à peu près ou pas ?
Alors là, je ne saurais pas donner le chiffre. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais je ne saurais pas donner le chiffre. Il faudrait regarder.
J'ai lu, mais je n'ai pas cherché à vérifier par plusieurs sources. J'ai lu 500. Quoi.
Ouais, sur Wikipédia, j'étais tombé dessus aussi. Ouais. Tout à l'heure, tu expliquais que pour l'instant, le projet, il est à l'arrêt ou il est ou au point mort, je ne sais pas. Enfin, pas à l'arrêt. Il est en stand-by de quelque chose.
Ouais, en fait, le projet, aujourd'hui, le sujet du projet, c'est que il est en instruction au sein des services de la préfecture. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le projet sur site, si vous allez sur site ou à proximité du site, vous allez voir l'entreprise qui est en train de construire un très grand terrain, en train de terrasser. Ils font des terrassements énormes pour implanter donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le centre de tri des déchets, la centrale à béton, et puis les projets aussi, puisque c'est pour l'instant que des fondations, mais ils préparent aussi forcément pour la centrale à bitume et le concasseur. Donc ça, pour l'instant, c'est en cours de... Pour l'instant, c'est du terrassement, c'est des fondations qui sont en train d'être réalisées sur le site, donc juste derrière le Leclerc-Saint-Brice. D'ailleurs, si vous passez dans le quartier de la Neuvillette, vous profiterez du bruit du chantier, puisque on perçoit très bien le bruit du chantier, donc on n'imagine même pas quand il y aura un concasseur là-bas.
Sur 5 hectares, 53 314 mètres carrés.
C'est un grand site, sur 5 hectares, effectivement. Donc là, ils sont en cours d'établir les fondations. Comme on a dit tout à l'heure, ils peuvent demain commencer à construire le centre de tri des déchets et la centrale à béton, puisque ça, rien ne l'interdit. Là-dessus, ils ont le feu vert. Par contre, pourquoi on est en attente et qu'eux aussi sont en attente, c'est la décision de la préfecture vis-à-vis de l'implantation, enfin d'une autorisation préfectorale pour construire cette centrale à bitume et ce concasseur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les mois, au niveau de la Marne, on a un CODREST, c'est un conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ce comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui s'est tenu fin février, n'a pas émis d'avis défavorable vis-à-vis de la construction de cette centrale. Donc aujourd'hui, le préfet, son comité départemental qui lui sert à prendre ses décisions et qui le guide dans ses prises de décision, n'a pas émis d'avis défavorable vis-à-vis de la construction de cette centrale. Suite à la rencontre qu'on a eue avec le sous-préfet et suite à nos alertes, la préfecture a aussi demandé pour ce projet-là un avis de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc, à mon avis, et là c'est que mon avis, la préfecture est en attente du retour de cet avis de l'ARS avant de prendre son arrêté. Aujourd'hui, voilà où on en est. Aujourd'hui, on est dans l'attente. On ne sait pas quand est-ce que la décision de la préfecture va tomber, demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois. Ça reste l'inconnu. C'est la préfecture qui est en train d'instruire le dossier. Ce qui est certain, c'est que la décision va tomber. La décision, elle peut être de 3 natures. La décision, ça peut être que la préfecture dise « Le projet tel qu'il est établi aujourd'hui ne permet pas d'assurer la sécurité des riverains et j'interdis le projet. » Ça, c'est la première option. Ça, j'y crois pas beaucoup. La deuxième option, c'est que la préfecture dise aujourd'hui, le projet répond à la législation, mais il manque telle et telle et telle disposition vis-à-vis du risque incendie, Mais par contre, ils ne pourront imposer que des choses qui sont prévues par la loi. C'est-à-dire que la préfecture ne pourra pas dire demain, il manque l'encapotage complet de la centrale. Ça, elle n'a pas le droit de l'imposer au constructeur, puisque la loi ne l'impose pas. Donc elle peut par contre imposer que les dispositions pour le risque incendie aujourd'hui ne sont pas compatibles, donc il faut les mettre à tel endroit, etc. Donc en fait, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre un arrêté sous condition, c'est-à-dire un arrêté avec certaines restrictions par rapport au projet actuel. Je pense que c'est le plus probable vers quoi on se dirige, c'est-à-dire aujourd'hui un accord sous condition de la préfecture, ou alors si la préfecture considère que le projet aujourd'hui répond à toutes les normes légales, il peut très bien prendre un arrêté d'autorisation sans restriction, c'est-à-dire tel que le projet est présenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout quel sera lequel de ces trois choix qui sera retenu par le préfet vis-à-vis de l'autorisation qu'il va donner, mais on est suspendu à cette autorisation. On attend de savoir quelle sera cette autorisation qui sera ou non donnée par le préfet. Parfait. Et en fonction du résultat de ce que le préfet va nous donner, notre association, suite à l'étude qu'on a pu faire du dossier, et on fera une étude de l'arrêté, puisque si c'est un arrêté sans restriction, on a déjà plein d'éléments qui nous permettront d'aller en justice devant le tribunal administratif pour dire que les normes constructives ne répondent pas à la loi. Ça, on a déjà établi pas mal de choses. Par contre, si l'arrêté est avec restriction, il faudra qu'on étudie l'arrêté avec restriction pour savoir qu'est-ce qu'il a pris en compte dans nos remarques ou pas. Et on ira en justice aussi, mais là, ça demandera un peu plus de temps parce qu'il faudra étudier effectivement l'arrêté préfectoral et voir qu'est-ce qui est pris en compte et qu'est-ce qui n'est pas pris en compte pour demander des normes constructives destinées à préserver la santé des concitoyens, que ce soit en fonctionnement normal de l'installation ou en cas de sinistre.
Ok. Quelqu'un a d'autres questions ?
Oui, bah alors tous au pique-nique, là, bientôt.
C'est ça, ouais. Donc tout à fait. On a organisé donc le samedi 13 avril, c'est ça, je ne dis pas de bêtises.
On va organiser
le samedi 13 avril un pique-nique au parc Marcel Lemaire. Alors le parc Marcel Lemaire, c'est le parc qui est entre le quartier de la Neuvillette et le Clair Saint-Brice-Courcelles. Le samedi midi, on veut organiser un grand pique-nique dans ce parc-là. Alors pourquoi ce parc-là ? Parce que ce parc-là, c'est un parc qui est quand même un vrai poumon d'oxygène pour les Rémois de nos quartiers. Et demain, ce parc-là, il est à 400 mètres de la future centrale. C'est-à-dire que, pourtant, on a déjà croisé notre maire Arnaud Robinet en train de faire son footing dans ce parc-là. Mais je pense qu'une fois que la centrale s'est construite, il aura beaucoup plus de difficultés à réaliser cette activité avec les odeurs de bitume et le benzène dans l'atmosphère. Mais du coup, nous, on veut profiter encore qu'on puisse profiter du plein air dans ce parc qui est quand même un poumon de nos quartiers. Et du coup, on va faire un pique-nique dans ce parc Marcel Lemaire le samedi 13 avril à midi, et ensuite on ira, puisque la centrale n'est pas très loin, on fera un peu plus que 400 mètres parce qu'on n'ira pas en ligne droite parce qu'il y a le canal à traverser et on n'a pas de pont juste en face de nous, mais voilà, on aura une petite marche d'un petit kilomètre et on ira faire le tour autour de la centrale et revenir au parc ensuite.
Et avez-vous pensé à solliciter les vignerons de Saint-Thierry pour qu'ils nous fassent goûter leur production, pour avoir un point de comparaison si par malheur...
pour goûter avant et après la centrale à Rome. Voilà.
Eh bien, je pourrais les solliciter puisque je les rencontre au courant de la semaine prochaine.
Oui, mais on essaye déjà de faire des analyses de sol ou d'air avant la construction et la mise en service de cette centrale. Mais le problème, c'est que ça coûte excessivement cher. Et donc, pour cela, il nous faut des fonds. Donc, il faudrait que le maximum de personnes adhèrent à l'association. Et pour cela, il faut...
Alors, pour cela, il y a le site internet de l'association, hein, www.r-environnement-grand-reims.fr. Donc sur le site de l'association, vous pouvez adhérer effectivement à notre association, sachant qu'on est parti sur une cotisation à partir de 5 euros, et les gens donnent ce qu'ils veulent en fonction de leurs moyens. C'est pour ne pas avoir de discrimination et que chacun puisse adhérer, et ceux qui ont un peu plus de moyens, s'ils peuvent participer davantage, c'est toujours mieux, et ça nous permet aussi d'en avoir les moyens. Et puis je pense qu'on va ouvrir, alors pour l'instant c'est pas encore fait, mais je suis en train de travailler dessus aussi, une cagnotte en ligne, parce que effectivement, que ce soit pour faire les analyses de sol et les analyses de qualité de l'air qu'on veut faire avant la mise en place de la centrale, pour pouvoir suivre l'évolution de la pollution dans nos quartiers après la mise en service de la centrale, il faut de l'argent et ça coûte très vite cher. Et puis pour la partie juridique, la partie judiciaire sur laquelle on souhaite s'engager, autant devant le tribunal administratif, nous n'avons pas besoin d'avocat et on peut porter le dossier avec un juriste, et on est en train de travailler sur ce point-là. Autant s'il faut faire appel derrière ou autre, on a rapidement des frais d'avocat, et les frais d'avocat, vous imaginez que même pour une association, ça coûte très vite très cher. Donc effectivement, l'association va avoir besoin de moyens si on veut vraiment se mettre en place pour chercher à ce que, si la centrale s'installe, on mette tous les moyens en œuvre de notre côté pour qu'il y ait le moins de nuisances possible sur nos quartiers.
Et ben en tout cas, merci. Merci à tous. J'espère que plein de personnes auront entendu l'appel et rejoindront l'association.
Merci beaucoup à tous.
Merci, au revoir. Au revoir.
Ça sera le 13 avril au parc Marcel Lemaire et on fera une marche autour du site de la future centrale. Ce qu'on propose, c'est un pique-nique tous ensemble dans le parc Marcel Lemaire. On va profiter pour l'instant qu'on peut encore le faire. Et puisque dans quelques mois on pourra plus le faire si la centrale se construit. Et ensuite on fera une marche autour de la centrale qui est à proximité immédiate. Voilà. Merci.
L'alternative.